la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
Au début, il y a des mots, et puis au fur et à mesure, ça s'épuise. Le langage se dissout, les frontières se libèrent de leurs signifiants maîtres, les voix guerrières opèrent une décolonisation pour se réactiver en organismes vivants, polyglottes, polyphoniques, plus monstrueux ou au bord de la disparition.
Évidemment, le printemps sent bon et l'été il fait chaud, mais l'automne.
Il va me chauffer.
E mi adori, no, ma dopo te scano a te, non ti sa dare cosa vuoi, non ti hanno
rasiato, ti sa dare. E te, ah, e ricche non te, e la
da me escuchas?
Bien sûr que soy perdido.
Sueña.
Tuve un sueño muy erótico.
¿Y usted?
No tengo ni idea.
Escúchame. Me cuento le da la desaparición. Sueña, soñamos.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes en direct sur 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde entier, dans l'univers même peut-être. radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, une émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Patricia, tu vas nous présenter notre invitée, Natacha Muslera.
Oui, bonjour Natacha.
Bonjour Patricia.
Là, on vient d'écouter une pièce du chœur tactile, qui est un chœur que tu as initié. Et cette pièce s'appelle Radio Schizo 3. Dans cette pièce, on peut écouter des voix chantées, des voix parlées en français et dans d'autres langues, des bribes de voix issues de la télévision, par exemple. Tout cohabite, se superpose, se mêle. Les voix, les paroles, les langues, tout est comme tissé. C'est important pour toi de faire coexister ces trois aspects du langage ?
Effectivement, cœur tactile, c'était l'expérience. Depuis 2012, ce cœur existe. Donc nous sommes 10 voix. Et nous travaillons aussi très souvent dans l'obscurité. Et aussi parce qu'on travaille avec des personnes qui ne voient pas, qui sont non-voyantes. Puis d'autres qui voient et d'autres qui voient à peine. Et donc on a développé ensemble, on développe et on continue de travailler à partir de... du langage presque ruine, et comment on peut... notre manière de travailler ensemble, c'est d'écouter. Écouter les bruits, écouter les écosystèmes, écouter les langues, écouter les émeutes, écouter les luttes. Et à partir de là, on travaille sur des matières, on les invente ensemble. Et donc Radio Schizo, c'est parti de la grève de Radio France en février 2016. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme matière ? Essayer d'inventer, de créer une radio qui soit polyphonique, qui soit stratifiée, où il y ait des langues japonais, arabes, espagnols, italiens, français, et puis des langues inventées aussi. Et aussi, justement, des langues bruit. Pourquoi, à un moment donné, le langage travaille juste avec le signifiant maître ? Pourquoi le langage, il se sert de la voix ? Il la met à ses bottes, souvent, hein, c'est le cas. Pourquoi le langage ne serait pas plus ouvert ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mot, mais il peut y avoir aussi des bruits. Mmh. Voilà.
En gros. En parlant du bruit, je passe à une question que je voulais te poser beaucoup plus tard, mais je te la pose maintenant, parce que certains disent que tu fais du bruitisme. Toi-même, dans une pièce, tu as dit pièce bruitiste. Et est-ce que des œuvres comme « L'art des bruits » de Luigi Russolo ont influencé certaines parties de ton travail ou pas ? Ou c'est d'autres choses de l'ordre du bruitisme ? Ou qu'est-ce que c'est en fait le bruitisme pour toi ?
Alors la pièce bruitiste dont tu parles, c'est laquelle ?
C'est une de tes installations.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Alors, le bruit. Commencer à écouter les bruits du monde, donc sortir de soi. Ben, c'était une expérience que j'ai faite à 8 ans. Enfin, je devais écouter avant, bien sûr, mais à 8 ans, c'est devenu concret. C'est parti de la musique concrète. Mon grand-père écoutait Pierre Schaeffer.
D'accord.
Et un jour, on était à table, il écoutait très souvent aussi la radio. Et il écoutait comme ça de la musique, et on était à table. Et tout d'un coup, ben voilà, une fourchette, un verre, ben, ça faisait du bruit. Ça faisait des sons. Et ça, c'est devenu... je ne sais pas si c'était conscient, mais en tout cas, il y a une expérience là qui s'est faite à ce moment-là. Et après ça, il y a toujours, même s'il y avait un travail de la voix, un travail avec les voix, un travail avec le chant, mais c'est toujours été relié à, même dans les chansons, hein, depuis le départ, dans les groupes qu'on a montés à plusieurs, dans les collectifs, on envahissait des terrains vagues, il y avait les chansons, il y avait des ritournelles, des chants révolutionnaires, mais il y avait toujours des bruits aussi avec.
C'est qui on ?
Ah, on, ça a été... ça a été le premier groupe, c'était Natim Bales. Donc ça, c'était un groupe aussi traversé par pas mal d'influences. Et bien sûr que tu vois Luigi Russolo, oui, la musique concrète. Et puis après toute la musique noise. Et puis Henri Chopin aussi, qui est un poète qui m'a beaucoup inspiré. Dimitri Ostratos.
Oui.
Donc ça a été comme ça. Et puis John Cage. Alors là, que ça
continue
encore.
Oui, donc tu as interprété l'aria.
Oui,
n'est-ce pas ?
Oui, exactement. Et qui est toujours, voilà, à John Cage, ce qui est magnifique, c'est que ça doit se réinventer. Enfin, c'est ça. Donc, voilà, c'est très ouvert. Mm-hmm. Et donc, le premier groupe, Natim Bales, c'était avec Jean-Carl Feldis, c'était avec Nicolas Gorge, avec Nicolas Gerber, Ça, c'était la deuxième mouture, voilà. Et pendant 10 ans, on a travaillé ensemble, ce qui a donné à la fin de Sikamoy. Et en fait, en 2002, l'album est sorti. Il y a eu l'album Sikamoy. Quand j'avais 20 ans, il y a eu un autre album, Natim Bales. Mais là, j'ai pas choisi de morceau. Mais parce que c'est un peu trop... Ça tient pas tellement, je trouve.
Bon.
Et voilà.
bon.
Ouais, mais en même temps, quand l'album Sikamoy est sorti, c'était aussi la fin, quelque part, de ces chansons.
Je les ai vus. Le trou d'une serrure s'étrangler d'amour, deux éphémères dansés de joie. S'alimenter en caresses fulgurantes, assez sans se pourchasser sur des lits défaits, s'étouffer d'attouchements provoquants, entouré d'une tapisserie gluante et puante. Je les ai vus par le Judas. S'exciter du vacarme transpirant, brillant, de leur peau confondue, de leur port en frottement continu, de l'aube jusqu'à la nuit, je les ai vus s'exiler d'une planète à l'autre, jubilés d'une possession soumise à l'inaltérable attraction.
On vient d'écouter l'album Sikamoy par le groupe Sikamoy et le titre c'est Le Judas avec la voix de Natacha Muslera.
Voilà, c'était comment c'était cet album, il me semble, je trouve qu'il a une force encore aujourd'hui, il résiste au temps, mais en même temps c'était le moment de basculement.
Voilà, tu passais à autre chose.
Ouais. Ouais,
d'accord.
Ouais.
C'est là où tu as commencé les improvisations.
Oui, ouais. En fait, j'improvisais déjà. Pas mal, et les chansons aussi étaient traversées par des improvisations, mais c'était pas de l'improvisation ouverte et libre. Et donc j'improvisais pas mal. Oui, peut-être tu veux dire.
Ben oui, justement, ça c'est une de mes grandes questions te concernant, c'est la question de l'improvisation. Parce que tu sais, sur un des sites à ton sujet, pas le tien, le nouveau qui est très beau, très bien fait,
ouais.
Mais sur un des sites qui possède quelques-unes de tes œuvres, il est dit que à partir de 2000, Natacha Muslera a commencé l'improvisation libre. Et moi, je me suis dit, est-ce que pour Natacha, l'improvisation libre, c'est une improvisation essentiellement intuitive, ou est-ce que seule ou avec les personnes avec lesquelles elle improvise, il y a des contraintes, des consignes qu'il se donne?
Je crois qu'on a suffisamment de contraintes dans la vie. Et faire de la chanson aussi, ça impliquait à un moment donné se retrouver économiquement, enfin dans l'industrie, dans le capitalisme à fond, voilà. Bah, si on veut réussir là-dedans. Donc là, il y avait un problème, parce que ce n'était pas ce qui m'intéressait. Et du coup, j'étais très peu au courant, parce que j'ai aussi à 19 ans, j'ai fait une école de jazz à Paris, qui était rue Doudeville. Et ce qui était fantastique, c'était de croiser des professeurs qui travaillaient, donc c'était assez vivant. Et en même temps, c'était aussi très mortifère parce que c'était, il y avait absolument pas plein d'histoires de la musique.
Mais c'est pour ça que tu es partie avant, non ?
Oui, assez rapidement. Après, il y avait des écoutes, il y avait une discothèque magnifique et donc ça, c'était vraiment écouter le jazz, le free jazz surtout, ou le jazz modal. Mais c'était assez vite. Voilà, moi, je ne savais pas quand j'avais donc, c'était voilà, en 99-2000, je commençais déjà à improviser, mais je ne savais pas qu'il y avait une histoire de l'improvisation libre. Voilà. Et ça, dans l'école de jazz aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est absolument refoulé. Voilà. Enfin, même censuré. Donc, si tu veux, ça a été aussi comment, comment ouvrir, c'est pareil, cœur tactile. Ce qui est, je crois vraiment qu'un cœur, c'est un outil micro-révolutionnaire, dans le sens où ça relie une oralité rompue, mais c'est aussi quelque chose qui te... Un cœur sans chef.
Voilà, c'est ça. C'est, oui, c'est ça. Un cœur sans chef, c'est... Ouais. Il y a... Ici, on est à Radio Libertaire.
Ouais, ouais.
Donc, si tu nous parles de quelque chose sans chef, ça
ouais.
nous intéresse.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de... Une volonté politique, mais aussi philosophique ?
Oui,
ouais, voilà,
oui,
hein.
oui, oui.
Voilà.
Et je crois que c'est plus qu'une volonté. C'est savoir ce que l'on veut. Mais ça, oui. Mais c'est aussi être en vie à plusieurs dimensions. Comment partager un espace commun ? Et c'est ça, le cœur. Comment ça se partage, un espace ? Avec des histoires de territoire, avec des histoires d'ego. Et comment, au bout d'un moment, on ne se parle presque plus, il y a des silences qui ne sont pas fermés mais ouverts, c'est téléphatique. Et donc, comment on partage cet espace commun ? Et l'expérience de cœur tactile, ça devient de plus en plus ça, en fait, à vrai dire, avec le temps, d'une expérience au monde, aux choses collectives, même si je travaille plus, je le nourris, mais même si eux me nourrissent aussi, mais j'ai plus de temps pour tout écrire, parce que j'écris tout, et pour qu'il y ait, voilà, peut-être une trace, enfin, je ne sais pas, que ce travail-là soit aussi existe, circule.
Oui, j'aimerais qu'on revienne un peu plus tard à la question du chanter ensemble, du produire ensemble, et qu'on entre plus précisément dans le cœur tactile. Parce que tu as dit, donc, il y a des personnes non-voyantes, on est avec un processus tactile. Alors, comment ça se passe, chanter avec un processus électronique tactile
ouais.
C'est... Hein,
oui.
Moi, on peut se demander, non ?
Oui, oui. Ça a été l'expérience de l'improvisation libre. Pas de contrainte, aucune. Comment improviser ? C'est pour moi une expérience aussi d'être tout le temps reliée au réel, au bruit du monde. C'est donc pas... C'est une pratique. Et c'est cette pratique-là aussi de ne pas être... c'est d'être en permanence relié à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on entend. Et comment ça peut être ou détourné ou transformé par le son, que ce soit un instrument, que ce soit la voix, que ce soit... Enfin, la voix, c'est un instrument. Et ce sont même des instruments.
Ça, c'était une question que je voulais te poser. Tu y as répondu, merci.
Ouais. La voix, c'est un instrument à cordes, à vent. Et puis, de langage aussi. Donc, c'est ça aussi, toute l'articulation c'est riche, mais évidemment. Mais après, c'est aussi l'instrument qui peut être évidemment le plus formaté, et on l'entend souvent. Donc, l'improvisation libre, ça était là comme expérience, comme pratique très importante, c'est une matrice. Mais cela n'empêche pas de travailler une écriture et une écriture aussi qui s'invente. Donc composer aussi. Et donc je compose aussi. Et que ce soit, mais voilà, je compose, mais c'est toujours dans les failles, c'est-à-dire entre musique et poésie sonore et poésie vocale.
Mm-hmm. Oui, voilà. Ouais. Il y a les poèmes sonores aussi,
oui,
la
oui.
radio également.
Ouais. Et donc, oui, il y a les audio-poèmes, il y a les poèmes électro-organiques, il y a différents. Mais en fait, c'est pas séparé des pièces, quelles qu'elles soient,
oui.
ça se tisse.
Mm-hmm.
Et puis, il y a à la fois et l'improvisation et bien sûr des extensions et à partir de cette matrice-là, comment aussi on peut écrire. Et donc, pour revenir à
cœur tactile.
Oui. Donc, au départ, c'était travailler, trouver un dispositif, l'inventer, parce que ça n'existe pas. On l'a inventé donc avec Charles Bascou, qui est un ingénieur bidouilleur, et donc ça n'a pas coûté cher du tout, ce qui est important. Mmh. Et donc, cœur tactile a été accueilli par le GMEM, qui est un centre national.
Voilà.
Voilà, qui est à Marseille.
Marseille.
Ouais. Et donc, c'est un outil fabuleux. Après, c'est une institution. Donc, comment aussi être à l'intérieur d'une institution ? Et pour moi, c'est pas facile. Et transformer un minima ou ou en tout cas qu'il y ait autre chose qui un peu puisse exister, tout ça. Mais j'ai eu la chance d'être avec Cœur Tactile, on a eu la chance d'être accueillis, et ça fait depuis 2012 qu'on travaille au GMEM. Ce qui est quand même donc, ce qui est fantastique, c'est que le directeur Christian Séville et Sarah Olaya aussi, qui travaillent avec lui, ils ont compris, et ça c'est extrêmement rare, ce n'est pas ce cœur une histoire de création ou d'événement à l'année, ça va prendre du temps. Et avoir du temps aujourd'hui, c'est exceptionnel, enfin c'est une chance inouïe. Donc voilà, on a cet outil-là. Et aussi Charles Bascou, donc qui est ingénieur et qui travaille au sein du GMEM, et avec qui on a développé. Donc, alors pour essayer d'être simple, donc la problématique du départ, la question aussi, voilà. C'était comment travailler avec des outils numériques et avoir une relation, un rapport qui ne soit pas un rapport uniformisé. Mais tout au départ, donc ça, c'est des questions qui m'intéressent depuis longtemps, parce que ce qui m'intéresse à l'intérieur des outils numériques, c'est leur capacité à être aléatoire. C'est une machine de hasard. Mais comme le jeu de tarot, c'est une machine de hasard. Comme le Yiking, c'est une machine de hasard. Mm-hmm. Donc comment on peut se servir d'un outil et puis jouer avec, mais jouer, non pas lui donner un ordre, être autoritaire avec la machine, et ni qu'elle soit autoritaire avec nous, mais donc comment créer un rapport d'altérité.
D'accord, finalement, c'est un peu joué. On a accueilli Pierre Berthet, je ne sais pas si tu veux, voilà, qui parlait de ce terme jouer, le fait de jouer, s'amuser, et aussi le fait qu'il y ait du jeu dans une pièce.
Oui.
Voilà.
Oui, oui,
et donc,
oui.
Ça me fait penser à ce que tu dis un peu.
Oui, mais c'est ça. Et aussi, c'était... Comme on est tous aveugles, puisqu'on ferme tous les yeux, on travaille dans l'obscurité, et que c'est aussi une écoute. Ce qui m'intéresse aussi de travailler avec des personnes aveugles, c'est qu'elles développent, elles ont une écoute acousmatique, puisqu'elles ne voient pas la source. Et donc une écoute aussi qui... Après, il n'y a pas un aveugle qui se ressemble. Il n'y a aucune généralité à faire, évidemment, et à faire. Et donc, c'était comment aussi créer un outil qui ne soit pas visuel et qui puisse envoyer des informations de manière tactile, sans que ce soit aussi un outil qui soit trop intrusif, mais qui soit un outil pudique auquel tu ne sois pas attaché, tu peux te décoller. Et donc, comment travailler avec le fait de... ce qu'on a fabriqué, donc, c'est... On est parti de pupitre voilà. D'orchestre.
Ah, excuse-moi. Oui, justement, ouais. j'ai vu ça. Et ça ressemble vraiment à des pupitres, s'il y avait du braille dessus.
Ouais.
N'est-ce pas ?
Oui.
C'est bien ça ?
Ah, en fait, pas vraiment.
Ça m'a fait penser à ça.
Ça t'a fait penser à ça. Alors, c'est sans doute une imaginaire déjà qui fabrique quelque chose.
Oui, c'est
parce
ça.
Que,
hein.
En fait, c'est des pupitres d'orchestre tout... bête, pas du tout transformé.
D'accord.
Pardon. Donc il n'y a aucune transformation. Mais il y a des trous dans ces pupitres-là d'orchestre, en fait. Il y a des trous, mais ça, c'est pas nous qui les avons faits. Non, ils sont là au départ.
Oui,
il y a des trous. Et donc on pose les mains dessus. Et donc les mains, ce sont les partitions. Donc les partitions, c'est la peau, c'est l'épiderme. Et derrière ces pupitres, on a fabriqué un boîtier avec Charles Bascou qui, avec des électroaimants, va faire des impulsions sur les paumes de la main, comme du morse. Et chaque impulsion, donc une impulsion plus ou moins courte, plus ou moins longue, il y a un code qu'on a élaboré, qu'on continue d'élaborer. Chaque impulsion correspond à une matière vocale ou une indication. Ou un processus.
Donc une matière.
Ou un mouvement.
Donc une matière.
Mouvement.
Le mot matière vocale, pour toi, il est important. Hein. On y reviendra peut-être après. Mais
Oui. Mm-hmm. Oui, bah, par exemple, il y a cette pièce aussi, après Radio Schizo. C'est une matière aussi, c'est des études là, qu'on fait, qui s'appelle gaz. Il y a eu beaucoup de gaz en 2016.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, ce sont des souffles-vents. Et donc, ce ne sont que des souffles-vents. Gaz, ouais. Et ces souffles-vents se... comment on peut faire un souffle commun, voilà. Et aussi comment ce souffle commun, ce continuum là aussi, c'est pareil là, ça devient vraiment, c'est, il y a plus de lettres. Comment une voyelle devient presque liquide, parce que c'est de l'air, c'est de la salive, c'est et donc comment faire souffle commun aussi ensemble. Donc ça, par exemple, c'est une matière qu'on travaille beaucoup.
D'accord.
Voilà.
Oui. On va peut-être écouter Gaz maintenant.
Ouais,
non.
Oui.
Du cœur tactile.
Oh.
Donc on revient un peu sur cœur tactile parce que tu as expliqué justement ce procédé tactile. Donc le pupitre, c'est ça le robot haptique ?
Alors en fait, c'est un robot, donc ce n'est pas un androïde. Il est horizontal et il n'est pas vertical. Et donc c'est parce qu'on utilise à la fois de l'informatique, de la mécanique et de l'électronique. Et en fait c'est un dispositif, il y a les pupitres et puis il y a aussi une planche, un écran tactile sur lequel moi au départ j'impulsais les matières. Je ne dis jamais que je conduis parce que justement c'est pas conduire. Et c'est impulser les matières qui arrivent et chacun peut prendre ces matières, c'est glisser vers ces matières de la manière dont il veut. Donc il y a toujours, ça aussi, c'est très cagien et c'est une continuité. C'est-à-dire comment il y a une part d'indétermination en permanence dans l'écriture et d'aléatoire. Donc ça, mais en fait, maintenant, cette planche sur laquelle, enfin, je ne veux pas dire le mot parce que c'est une marque, donc je n'ai pas envie.
Ah d'accord.
Voilà. Ça, on n'a pas pu faire autrement qu'utiliser un produit industriel. Voilà, c'est bon.
Vous auriez aimé deux pas ?
Oui. Mais pour ça, il faudrait plus de temps. Et à un moment, on était en relation avec l'école d'Ardex pour qu'il y ait ce travail-là. Et puis, ça n'a pas encore abouti, en fait. Mm-hmm. Mais c'est une tablette tactile, voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en 2018, on travaille sur le fait que le robot, c'est lui qui va impulser les matières de manière aléatoire
sur une pièce
de 50 minutes. Donc là, il n'y a plus personne qui impulse, voilà. Mais il y a aussi une autre dimension de cœur tactile qui nous allège aussi, parce que là, on prépare un voyage au Japon. Donc, comment partager un espace commun, mais comment arpenter une île ensemble, cœur tactile. On est en acoustique et on travaille les voix de manière, c'est des pièces qu'on appelle écosystème acoustique. Et donc là, on travaille avec des dispositifs d'écoute et d'émission de la voix singuliers. Par exemple, là, on était dans un lieu que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous le connaissez à Marseille, qui s'appelle Data, qui est un petit lieu, il y a une datathèque, une discothèque, pour écouter des musiques, c'est vraiment bien, c'est un lieu assez actif et qui fait pas mal de concerts, c'est un petit lieu. Et là, par exemple, c'est un rez-de-chaussée de magasin, de boutique. On chantait sur les bacs de disques, certains chantaient debout, d'autres allongés, d'autres assis, et on entourait le public, et donc on peut là tenter des expériences acoustiques de voix qui viennent faire des choses très près des oreilles, comme très éloignées, tendre l'espace, et voilà, donc différentes manières de travailler. Donc là, on est sans micro, sans robot, juste 10 voix, et donc on peut chanter partout, dans la forêt, comme ça, et ça, voilà, c'est un cœur.
D'accord. Alors là, je vais venir à ça, mais juste avant, je vous demandais, j'ai vu que tu avais une grande pratique physique et énergétique, et je me suis demandé, mais peut-être que cette histoire de cœur tactile, s'il y avait cette envie-là qui était initiée par ta pratique physique et énergétique, comme le yoga, le tai chi, le qigong, etc.
Oui.
Ça a quelque chose à voir ou pas du tout
Si, mais ça, tout à fait, ça traverse, quand on se réunit, donc on se réunit deux fois par mois avec le cœur depuis 2012, et parfois un peu plus, et quand il y a des concerts un peu moins, enfin voilà. Et la voix, elle ne peut pas être travaillée, il me semble, du bout des doigts de pied jusqu'au haut de la tête. Hein. Après, c'est pas du tout, je déteste le sport. Bon, c'est comme ça. Mais
à part les, je trouve que les sports d'équipe, il y a des choses aussi qui
se passent. Ouais.
Ouais, bien sûr, il y a des choses qui se passent. Mais disons que là, c'est vrai que c'est un rapport à travailler ses souffles. Donc, comment ça circule, lié à ces pratiques-là, plutôt asiatiques, la plupart, ou indiennes, ou asiatiques. Et faire des méditations aussi, d'écoute ensemble. Mm-hmm. On écoute beaucoup avec le cœur. Les espaces, on part se balader ensemble aussi. On écoute comme ça, en fermant les yeux.
Et ouais, parce que tu pratiques le Hörspiel. Hörspiel, oui. Écouter, jouer.
Oui.
Y a quelque... ça se... Tout se tient finalement. Justement, cette histoire dont je parlais tout à l'heure, du cœur, oui. De l'improvisation, ça soulève la problématique du chanter ensemble, du créer ensemble. Je parle de ça parce que, il y a longtemps, quand j'ai écouté Baise en ville avec Jean-Sébastien Mariage, toi et Jean-Sébastien Mariage, puis après, quand j'ai écouté Cartouche, j'ai eu la sensation qu'il y avait vraiment une réflexion sur l'égalité, quelque chose de l'ordre de l'égalité entre les partenaires, pas forcément, enfin une question de pas de hiérarchie quoi, pas un plus fort que l'autre, enfin la question du comment jouer ensemble.
Oui. Mais si tu veux, depuis le début, il y a aussi ces désirs, j'ai jamais. Depuis longtemps, depuis l'âge de 17 ans, 16 ans, je montais des groupes aussi et c'était toujours des noms de groupes. Donc c'était pas la chanteuse ou le compositeur, c'était très souvent des projets collectifs. On envahissait des terrains vagues avec Cécile Duval quand il y en avait encore à Paris qui étaient accessibles. Et voilà, et on chantait et on disait des poèmes et donc ça a toujours été et c'est vrai qu'il y a avec Cartouche, avec Baise en ville, mais l'improvisation libre, c'est une pratique dans laquelle justement il n'y a pas d'hiérarchie.
Oui. Tu as parlé de Cécile Duval.
Oui.
J'ai parlé de Jean-Sébastien Mariage, d'Éric M. Ça fait beaucoup de collaborations, ça. Enfin, tu en as pas mal d'autres.
Oui.
Ouais. Et j'aimerais savoir quelles sont les collaborations qui ont impulsé des changements profonds, des changements radicaux. Dans ta pratique.
C'est des rencontres qui ont bouleversé les choses et ont transformé les choses. Donc ces rencontres-là, et c'est toujours un travail collectif. Ça a été alors avant Jean Kalfeldis, et puis ça a été des rencontres aussi comme Jodorowsky aussi quand j'avais 19 ans.
Oui.
Et puis le cabaret mystique, donc j'étudie les tarots aussi depuis que je vis à Marseille.
Ah oui, j'ai vu ça aussi.
Voilà,
oui.
Donc ça aussi, ça fait partie d'une machine de hasard, le tarot.
Ah
donc,
oui, carrément.
Comment,
oui.
Donc c'était donc cette rencontre là, Jean-Sébastien Mariage, Michel Donneda m'a ouvert des espaces sonores et les oreilles tellement, et une liberté. Et vraiment, c'était grâce à Jean-Sébastien Mariage, en fait, quand je sentais les limites de l'endroit de la chanson aussi, de l'espace de la chanson, même si ça peut revenir, ça traverse, mais de manière plutôt fantôme, plutôt les spectres de la chanson, des airs qui reviennent aujourd'hui. Mais c'était Jean-Sébastien qui m'a invité dans un ensemble qui s'appelait Nodal, et ça c'était en 2001, je crois, oui c'est ça, et où il y avait 13 musiciens. Et donc moi je ne savais pas que je pensais être un peu toute seule. Heureusement, c'est quelle découverte. J'étais pas du tout toute seule à improviser, complètement. Et donc dans cet ensemble, il y avait des musiciens incroyables. Il y avait Michel Donneda, Le Coinine, Mathieu Chamagne, Frédéric Blondy, et beaucoup d'autres. David Chiesa qui l'a impulsé. Et donc Jean-Sébastien, c'est lui qui m'a proposé, qui m'a invité au sein de cet ensemble. Et donc nous, on avait déjà commencé à travailler Baise en ville, et lui donc m'a aussi ouvert à tout un voilà des espaces sonores que j'ignorais encore, tu vois, encore
ouais,
plus.
Ouais,
quoi.
Ouais. Voilà. Et pour en venir à Éric M, je voulais en fait avec Éric M, c'était la connaissance de l'électronique. Finalement,
c'est vrai qu'il y a eu quand même un travail fort avec les machines. La voix et la machine.
Voilà.
Les voix, la voix, ça n'existe pas. Les voix sont multiples.
Donc cette chose aussi de se dire, bon, il faut que je trouve ma voix, ou faut chercher sa voix, mais c'est ses voix, c'est impossible d'avoir une voix, c'est très restreint. Bien sûr que c'est possible et que ça se fait beaucoup, mais c'est vraiment dommage parce que c'est comme si on disait qu'on était fait d'une chose et voilà. Et donc ça a été le travail avec l'électrique, l'électricité, l'électronique, qu'elle soit analogique d'abord. Et ça, il y a eu beaucoup un travail avec Nicolas Gerber, ce qui travaille avec le micro Moog.
Oui.
D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Baroque.
Oui.
On peut écouter un petit
morceau.
On peut
l'écouter maintenant.
Ouais. Oui, c'est très bien.
Allez, alors.
Du groupe Toc Toc. Ça, c'était en 2004. Baroque.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et avec notre invitée aujourd'hui, Natacha Muslera, et c'est Patricia qui mène avec brio cette interview.
Alors, Natacha, on parlait de la collaboration, du fait de jouer ensemble, et moi ce qui m'intéressait c'était ta collaboration avec l'instrument, ta voix.
Oui. C'est ce que je... Un peu pour relier un peu ce dont on parlait avant, c'est que il y a travailler avec les instruments, mais les instruments aussi qui ont cette énergie et acoustique ou électroacoustique ou carrément électrique ou électronique. Donc Jean-Sébastien, c'était aussi un long travail. Je me souviens, on jouait dans sa cuisine toute petite et on avait deux amplis guitare parce que très souvent, quand il y a des guitares électriques dans le rock, dans toute l'histoire du rock, les guitares sont sur des amplis et les voix, elles sortent très clean sur des haut-parleurs. Donc là, c'était comment aussi travailler la voix avec la guitare électrique de manière électrique sur un ampli à lampe. Et donc ça a été pendant 10 ans, en fait, Bézenville, on a travaillé ensemble, presque 10 ans. Et finalement, donc on a fait on a travaillé cette matière entre voix, guitare électrique au plus proche, comment ça peut se disséminer nos instruments à cordes, puisque ça,
oui,
deux instruments à cordes,
ça, oui,
et dans l'électricité et dans les cordes et avec l'électricité et depuis l'électricité aussi. Et du coup, on a fait un album qui est sorti en 2010. On a sorti cet album Bézenville chez le label Vendeuvre.
Bézenville avec Jean-Sébastien Mariage et Natacha Muslera, notre invitée d'aujourd'hui. Le titre, c'est Rose à lèvres.
Yeah.
là, à Bazinville, on fait un petit peu une pause. Je crois qu'on avait besoin aussi d'aller jouer, de faire d'autres rencontres. Et puis, je suis certaine qu'à un moment donné, à nouveau, le désir de... Voilà, mais on est un peu arrivé au bout aussi avec...
D'accord. Ouais. Et donc, quand tu parles d'arriver au bout de quelque chose, quand tu arrives au bout de quelque chose, tu commences autre chose. C'est un peu la fin de l'instrument, la fin de la musique... entre guillemets, libre, pour arriver au son fixé avec l'électronique, peut-être, non, oui.
Ah, avec, par rapport à cartouche,
oui,
dis, par ces croisements-là,
oui,
ou
voilà,
c'est,
parce que
ces bifurcations.
Ce que je veux dire, c'est que avant cartouche, ouais. Si tu jouais avec des instruments où le son était plus libre, après l'électronique, c'est des sons, et les platines, etc., c'est des sons fixés.
Oui,
donc,
oui. Ouais.
Tu vois,
oui, mais ça s'est mêlé, hein, les approches. Après, je ne dis pas, Bazinville, c'est une suspension, mais je crois qu'à un moment donné, on va à nouveau continuer le travail. Mais il me semble que parfois, c'est pas mal. Puis, en même temps, c'est une suspension, mais ça n'empêche pas qu'on travaille.
On se nourrit.
Oui, sans être de manière télépathique.
Voilà. Ouais.
Mais c'est aussi, voilà, comment on peut faire d'autres rencontres. Et c'est vrai qu'en 2009, j'ai rencontré Eric M. Et aussi travailler donc c'est avec l'électronique et surtout avec la manière dont lui... Alors tu dis des sons fixés, oui, ce sont des sons fixés, mais il a une approche de l'improvisation,
oui, c'est
libre. C'est quand même un des... Et du geste. Le corps est là, très, très en... Je dirais pas en mouvement, c'est pas cette histoire-là, mais le geste fait partie intrinsèque de la musique. Et ça, c'est très rare dans l'électronique, avec l'électronique, d'avoir une pratique comme ça. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui détourne, ce qui m'intéressait beaucoup, qui détourne l'instrument de l'industrie. Donc là, ils travaillent ensemble, on travaille avec des platines de DJ. Donc, c'est vraiment l'objet le plus formaté qui soit. Et comment lui aussi arrive à détourner ça. Et tous les deux, on se retrouve dans un rapport, dans une tension. C'est un groupe, on dit un schizo-duo, mais c'est parce qu'on nous l'a souvent. Il y a une personne qui disait, vous êtes complètement schizophrénique, ce que vous faites. Et c'est vrai que c'est le duo, puis là, il commence à être encore plus, je crois, libre et plus traversé encore par des voix qui sortent. Mais de lui, c'est pas que mes voix et toutes les voix qui sortent. C'est aussi, lui, ses voix électroniques aussi.
Hein,
c'est aussi ça. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a on travaille beaucoup ensemble. Enfin, on ne répète jamais ensemble. Ça, c'est une chose aussi qui me... En fait, je répète jamais. Et je crois qu'aussi dans l'improvisation libre, aussi, cette pratique-là, ce n'est pas une histoire de répéter du tout. C'est une histoire de se retrouver à un instant T et puis de jouer ensemble. Et alors, c'est vrai que, toutefois, il y a de moins en moins d'espace pour ces pratiques-là, ces musiques-là, ces expériences-là. Et du coup, ce qui faisait que le musicien ne répétait pas, c'est aussi parce qu'il y avait des concerts possibles. Là, ça se raréfie.
Ah d'accord.
Ouais, mais c'est bon, c'est peut-être des moments
ouais.
De l'époque.
Voilà. Bien justement, tu sais, je voulais te parler de quelque chose, d'une chose à laquelle j'ai assisté. En venant voir le concert de Cartouche, il y a quelques années, au Bouffe du Nord.
Ouais.
Et donc, moi, j'étais très contente d'écouter, de voir ce concert. Et j'ai, à un moment donné, une très grande partie du public, en plein milieu de votre jeu, une grande partie du public s'est levée et partie. Et en fait, vous avez continué à jouer absolument comme c'est rien. Enfin, moi, j'ai rien perçu chez vous d'étonnement, de surprise, de malaise, etc. Mais quand même, je me suis questionnée et je te questionne à ton tour. C'est-à-dire, je voudrais savoir comment vous avez vécu ça à l'époque et déjà. Et est-ce que cela vous a fait vous interroger sur la nécessité de votre travail, la réception des publics?
Il y a une jeune fille que j'aimais bien, qui vit à côté de chez nous, adolescente, et qui disait « Mais ces musiques-là que vous faites, c'est des musiques pas finies. » J'en sais rien, des musiques pas finies, pas terminées, pas inachevées. Tu vois, voilà aussi. Ça n'empêche pas l'inachèvement, l'expérience intense. Ça n'empêche pas ça. Comment on l'a vécu? J'imaginais, je pressentais que ça allait se passer comme ça. Et c'est rarement le cas. Parce que je crois, C'est un lieu déjà qui est un lieu qui reçoit l'acoustique merveilleusement.
Oui, hein, les très beau lieu en plus. Très beau et très...
Et nous, on était à l'époque... Maintenant, il y a une dimension acoustique aussi dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, enfin, électroacoustique. Donc, c'est moins amplifié. Mais donc, nous étions assez amplifiés. Et ce n'est pas un festival qui est un festival qui, est, voilà. Voilà, qui aime ça et qui aime le bruit. Et, et avant, l'organisateur est venu nous voir très, très, très flippé, très apeuré. Il fallait tout descendre. Nous, on lui a dit, faut rien descendre et on va le faire comme on le fait. Donc, on se doutait. Et lui nous a dit, si vous jouez comme ça, il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont partir. Voilà, c'est, je pense, un peu les gens de Télérama qui sont partis. Je suis méchante. Non, mais je rigole. Mais aussi, c'est pas... Alors, bon, après, autocritique, c'est pas un concert que j'ai trouvé... Je crois que c'est un des pires concerts qu'on ait fait, aussi.
Ah, d'accord.
Donc, je l'ai pas trouvé relié à l'espace, beaucoup. Et puis, on était... c'était pas notre premier concert, mais c'était un des premiers concerts qu'on avait fait ensemble. Ouais. Et c'était pas... Voilà, c'était pas fluide. C'était... Depuis, il y a vraiment eu des... C'est beaucoup plus... je crois que ça peut toucher, faire vibrer plus.
Plus de personnes, oui. Moi, je me souviens quand même, j'avais beaucoup aimé quand même. Hein. Mmh. Voilà, c'est bon. On va peut-être écouter, non
un
morceau de... Enfin, deux extraits de Cartouche.
Oui, d'accord, très bien.
Donc, on va écouter Faire Tougadine. Ouais. Et puis après, Machette.
Thank you. Oh,
Natacha.
Oui. Oui, oui. Oui.
Alors, je vais te poser peut-être une question un peu. C'est. Tu parlais de. Tu disais que tout le monde avait dit de Cartouche que c'était un duo schizo. Mais tu as aussi utilisé le terme schizo pour radio schizo dans Le cœur tactile. Moi, tu sais, je pensais à Capitalisme et schizophrénie de Deleuze. Et je trouve que dans tes pièces, justement, il y a cette espèce de une polyphonie qui peut faire penser à notre société, non ?
L'anti-Oedipe. Il m'a sauvé la vie, ce livre. Que j'ai relu pendant 2 ans, il y a 2 ans. Oui, alors peut-être j'ai dit que c'était un duo schizo. Il y a eu 2-3 personnes, hein, c'est pas du tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une schize, de comment sortir toutes ces voix multiples. Ça aussi, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une résonance. Et parfois, j'ai tendance aussi, quand il y a un mot qui est chargé d'un concept, qui a une résonance politique ou micropolitique, ou c'est un peu obsessionnel. Et voilà, et du coup, c'est aussi comment. Bien sûr que c'est une critique du capitalisme, mais c'est aussi comment le capitalisme ne supporte pas la schizophrénie. Hein, et toute cette fragmentation aussi qui échappe au contrôle. Donc voilà, c'est aussi.
Ouais.
Radio schizo, c'est aussi ça.
Ouais.
Enfin, et donc là, avec notre rapport de machine, machine-voix, machine électronique aussi, c'est comment on fait sortir tous ces sons, toutes ces voix, de manière, c'est une espèce de cataclysme, quoi, de débâcle, tu vois.
Mm-hmm.
Et en fait, il y a une jouissance avec ça. Donc je crois que maintenant, on a commencé, ça passe, ça, c'est à la fois violent. Mais c'est une violence amoureuse, c'est une violence jouissive, c'est une violence guerrière, mais qui n'est pas mortifère du tout, qui éclate, qui va vers l'autre, qui, voilà, je crois, en tout cas, j'espère.
Quelque chose m'a interpellée, c'est, tu parlais des colonialismes.
Ouais.
Qu'est-ce que tu appelles les colonialismes ?
C'est aussi, enfin, c'est tout ce rapport au langage qui et au fait que le signifiant soit dominant, domine la langue, et donc comment aussi, je parle de décoloniser, mais comme de déterritorialiser aussi la voix, le chant. Et en fait, c'est ce que je fais et ce que l'on fait avec d'autres amis en permanence. Donc comment déplacer, comment l'ouvrir, comment aller non pas conquérir d'autres espaces, mais se retrouver dans des zones, des interzones, des failles pour qu'il y ait plus de possible. Donc les colonialismes aussi, c'est aussi, je crois qu'il y a un inconscient colonial, d'ailleurs il n'est pas si inconscient que ça, à beaucoup de niveaux. Donc c'est aussi ce travail, parce que je chante, je danse, chanter, c'est un peu une danse, chanter, danse, enfin c'est une combinaison de ça, mais j'improvise, je compose, mais je fais des films aussi.
Oui, tu fais des films et en fait tu es, finalement tu es partout en fait. Tu avais dit, j'ai relevé quelque chose que tu avais écrit, nous ne sommes que des oreilles et une bouche qui exècre des sons. Ça c'est dans Terrain Vague Manifeste avec Nicolas Gerbert.
Ouais.
Et je me suis dit, tiens, je vais lui demander parce qu'une bouche et des oreilles, mais elle, aussi les yeux aussi, ça la préoccupe. Je voulais savoir comment tu conçois la relation entre l'image et le son.
C'est complexe, mais c'est complexe parce que c'est jamais clair en fait. Donc c'est de la recherche.
Mm-hmm.
Et puis voilà. Donc je fais pas plein de choses, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je suis une chercheuse. Donc j'ai du mal à dire ce que je suis, mais je préfère parler de ce que je fais et c'est très bien parce que tu m'y invites vraiment. Et donc l'image à un moment donné aussi, comment elle travaille. Et comment elle est imprégnée comment elle est investie par rapport au langage, mais à la voix et aux voix. Et ce film, je parle de celui-là parce que c'est celui aussi qui tient, je trouve, avec le temps. Et il y en a beaucoup, enfin beaucoup, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des vidéos, des choses qui ne tiennent pas beaucoup. Mais ça, c'est Angèle de Foligno. Donc c'est un film qui est quand même le film le plus important, je trouve, pour moi et puis pour les amis aussi. Donc c'est un film qui est en 16 mm, qui est un film qui est sorti en 2009 et qui circule un peu dans les festivals. Et c'est un film qu'on a fait avec Cécile Duval, donc qui joue, qui est habitée par Angèle de Foligno, donc qui était une mystique du XIIIe siècle. Et donc aussi, c'est ça. C'est-à-dire, Angèle de Foligno, c'est une mystique. J'ai eu pas mal de conversations. Une mystique qui est... Enfin, de conversations aussi. Mais c'est, finalement, c'est une grande anarchiste. C'est-à-dire qu'elle dépasse l'institution. Ce qui m'intéresse, c'est comment aussi voilà, une femme au XIIIe siècle peut dépasser l'institution parce qu'elle a un rapport tellement intense et qui dépasse tout. Donc elle a failli se faire brûler, enfin voilà. Mais finalement, je crois qu'elle a été sanctifiée, si mes souvenirs sont bons. Et c'est Georges Bataille qui en parle beaucoup. Ouais. Et c'est à travers Georges Bataille que je l'ai découverte.
D'accord.
Mais ça commence, le film commence par le christianisme est une cristallisation du langage. Donc c'est aussi la question là, qu'est-ce que c'est le langage ? Et donc elle parle de ses visions, parle de sa relation avec l'éternel, mais quelque chose de très très érotique, de pornographique. Donc c'est la mystique la plus pornographique en fait, de l'histoire et de l'histoire des mystiques. Et cette dimension-là, cette cristallisation du langage, donc il y a beaucoup, si tu veux, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de langage, mais qui se déconstruit aussi par moments, et assez peu d'images. Donc c'est inverser aussi le rapport, tu vois, décoloniser, enfin il y a...
Joli, ouais.
Voilà, dans le rapport.
Ouais. Bah justement, tu parlais de ça. Je veux enchaîner, finalement. Parce que tu parlais aussi de Cécile Duval. Vous avez fait ensemble les haïkus.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
Et ouais. Donc ça m'intéresse parce que quand j'écoutais ça, votre pièce, je me disais, dis donc, au niveau du signifiant et du signifié, de l'image, tu parles d'image sonore et de sens. En fait, je me suis posé la question, est-ce que les deux, pour Natacha, est-ce que les deux sont égaux ?
Pas du tout. Enfin, c'est pas une histoire d'égalité ou d'inégalité en fait, je crois. C'est peut-être pas ça. C'est plutôt la manière dont le sens prend tout et domine, et donc le signifiant et le sens et empêche toute une autre manière d'être avec le langage, depuis le langage, d'être autrement. Et par exemple, voilà, c'est peut-être parti de recherche, mais il y a longtemps en fait, mais c'est assez cohérent parce qu'en fait ça se déploie après et puis et ça s'éclate. Mais c'est vrai que c'est parti d'une recherche que je fais depuis assez longtemps, de lecture de Nietzsche quand j'étais assez jeune, où je devais pas comprendre grand-chose, mais n'empêche que c'était aussi Barthes aussi, c'était ce rapport-là avec les présocratiques, c'est-à-dire à un moment donné, voilà. Le logos, ça c'est les socratiques, c'est la logique, le logos, c'est le langage. Et le christianisme aussi. Et il y a une domination là qui se passe. Mais comment avant les langues chants, comment avant le son, la musique, les chants traversaient le langage, étaient omniprésentes, n'étaient pas séparées, il n'y avait pas de séparation. Voilà, c'est ça. Donc c'est cette rupture-là qui m'intéresse à la fois comme rupture pour imaginer, pour travailler, ouvrir un langage des langues de venir, je sais pas, quelque chose. Mais comme là, on était aussi avec Eric M, on était au Québec, on a fait une pièce qui s'appelle Nitassinan, nous sommes le territoire.
Et radiophonique.
Oui, une pièce radiophonique. Et on a rencontré des Amérindiens, des Inuits. En fait, et surtout une personne inou qui nous a un peu comme ça orienté dans ce voyage. Et c'est aussi ce rapport-là, c'est-à-dire à un moment donné, ce sont des langues mineures. Bon, ça c'est et comment elles sont écrasées. On les a empêchées, mais comme les Bretons, enfin, on les a empêchées de parler aussi leur langue. Comment les dialectes aussi et comment ça se réduit et aussi comment leurs chants aussi et les chants pas que les chants de chamans, comment aussi Parce que les chants, en fait, même des chamans, mais les chants des poètes, il y avait des poètes. Ça pouvait être les chamans qui étaient des poètes, mais il n'y avait pas que les chamans qui étaient des poètes. C'est très proche, en fait, des recherches de la poésie sonore. Ouais. De la, oui, et le langage n'était pas... il était disséminé, il était surtout pas que ce rapport du sens au sens. Donc il était bruité, il était sonore. Et j'ai même entendu un homme qui imitait, au sein de ces communautés, qui imitait le son d'une tronçonneuse. Donc aussi en rapport avec les machines qui ont détruit leur territoire, dont ils disent que ce n'est jamais leur territoire, hein, qu'ils sont le territoire, que le territoire n'est pas une possession, qu'ils ne peuvent pas le posséder. Donc c'est ça aussi. Et juste aussi pour revenir quand même avec ce film aussi Angèle de Foligno, c'était parce que c'est Cécile qui est Angèle de Foligno, et puis c'est Kijao Kramer aussi qui a monté le film, et donc c'est elle aussi qui a fait le film, Boris Bellet, les images, et Nicolas Gerber, le son.
Voilà, toujours des travaux d'équipe. Hein.
Oui.
Et j'ai l'impression des amitiés fortes.
Ouais, très. Ouais.
Quelque chose qui continue toujours.
Oui. Et dans ce manifeste Terrain Vague, justement, Cécile, elle est Cécile Duval. C'était le moment dans les années 90, au début des années 90, on envahissait des terrains vagues, on sortait des théâtres. Il y avait eu aussi à un moment donné le théâtre 747 qui était un squat et qui était évidemment. Et donc on allait souvent jouer là-bas. C'était anciennement l'école de la rue Blanche.
D'accord.
Et donc on sortait, on allait jouer là. Enfin, jouer, on essayait des choses, on explorait tout le rapport toujours à la voix, aux langues, à la poésie, au langage aussi, au délangage. Et puis on sortait de ces endroits aussi qui peuvent assez vite devenir étouffants pour aller dans les terrains vagues et essayer des choses aussi.
Ouais.
Voilà, en invitant les personnes qui passent, les visiteurs. Mmh. Voilà.
Eh bien, je propose qu'on écoute un de tes audio-poèmes.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui, très bien.
Voilà, donc Pudding Stone.
Ouais.
Foudre, sang, su. Foudre, sang, su. Sur son zizi circoncis, sur son zizi circoncis, écorché de ronces et d'écrins, soutire tous, tous, tous. Tous, tous les regards sur son zizi cirque, sur son zizi cirque, sur son zizi circoncis, à moins d'une faute. Voûte plantaire, plantaire, l'écorce vertigineuse, velue de neige, saigne les parpaings lacustres, les parpaings lacustres, lacustres, lacustres. Le volume et la masse, décolleté, le volume et la masse, décolleté, en décolleté. Pendaison de crémaillère, pendaison au menu d'architecte rôti. Tête d'ogive,
un liquide.
Courte sur vase,
curieuse.
Courte sur pâte,
mal visqueux,
attardée.
Carré,
brûlante des pieds. Ici, soleil d'ogre,
carré,
dentelle,
mou.
Moissonne,
couple,
moissonne
d'emprise.
Chair. Flaque
d'huile,
vent,
beuglante
à l'air,
tête d'époux,
palombre d'un scrupule,
elle
sur l'étal,
l'occlusive,
du terme,
tailleur et châle.
Les oreilles libres sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, nous accueillons Natacha Muslera. Alors, j'ai évoqué... En pleine figure, que tu as élaboré avec Cécile Duval,
ouais.
Où vous mettez en scène vocalement des haïkus. Est-ce que ça va, ça? Oui. Donc les haïkus, hein, ce sont les petites formes, les petits poèmes japonais. La forme courte, c'est une forme qui te sied, j'ai l'impression, non? Au niveau du texte, pour composer.
Pour composer, peut-être, je ne sais pas.
Non.
Je sais pas, parce que c'est il y a eu des expériences, tu vois, à un moment aussi quand l'improvisation libre s'est ouverte et que j'ai rencontré Nodal, Michel Doneda, avec qui on continue un travail de duo Coyote, qui s'appelle Coyote d'ailleurs, mais là dont j'ai pas d'extrait sonore et encore et du coup nous sommes il y a eu un moment donné, donc c'était quelles années, 2003-2004, où pour moi, jouer sur scène, jouer en concert, sur un plateau ou pas de plateau, mais dans des endroits comme ça, je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de possibilités pour ouvrir différemment, faire d'autres expériences, que ce soit des expériences de corps, que ce soit des expériences de voix, que ce soit des expériences aussi à l'espace. Et du coup, j'ai dévié et j'ai essayé des choses, des formes assez différentes, sur des temps très 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 longs,
mais
des temps de 3 jours,
okay.
Des temps, par exemple, chanter sur le sol, dos sur le ventre. Par exemple, ça c'était en Espagne, j'ai fait plusieurs performances comme ça. Alors, j'aime pas ce mot-là, performance, parce que c'est un mot que je trouve très... j'aime pas ce mot, mais voilà. Mais du coup, voilà, mais c'était un festival d'art performance, et donc c'était, on peut dire, voilà, des actes. C'était des actes, c'était un acte. Et donc, je restais comme ça pendant plus de 13 heures, allongée sur le sol.
Oui.
Ouais. Donc, c'était aussi tenter des expériences de voix à la limite de la transe aussi, qui vont au bout de quelque chose, je ne sais pas quoi, à vrai dire, mais le corps commence, je ne contrôle plus rien, et là la voix sort, prend l'espace, comment la voix aussi peut saturer un espace acoustique, et là, en l'occurrence, c'était une immense, un monastère qui avait été transformé. Et donc voilà, par exemple, donc à un moment donné, c'était aussi sortir des temporalités du concert et aussi faire des formes très courtes, très incisives. Ça faisait partie d'un des actes aussi que je faisais avec un microphone qui est un ancien microphone de radio, Electrovox, et qui en fait ne supporte plus, ce microphone, les voix douces et qui ne supporte que les cris. Et pour le moment, je suis sa chanteuse entre guillemets préférée, mais ça va sans doute pas durer. Et donc, ce microphone, je l'ai avec moi. Et là, je sors la voix sort sur un petit ampli, et il est complètement saturé. Il y a une impédance en fait qui se passe. Et donc ça, c'est des actes qui durent 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes, très incisifs, lors d'un vernissage. Donc, comment foutre la merde dans un vernissage? Bah, tu fais ça.
D'accord.
Tu emmènes ce microphone, et vraiment ça crée un trouble.
Ah, ça m'intéresse ça, parce que sortir, dévier, foutre la merde, la transgression, c'est un mode de création opératoire.
Ouais. Natacha Mislera.
Bien sûr, c'en est. Oui, c'est des stratégies pour. C'est des stratégies en même temps pour partager, pour ouvrir, pour questionner, pour aussi violenter, mais ce n'est jamais fait d'un... Enfin, ça s'est transformé. C'est pas fait pour écraser du tout. Voilà, j'espère. D'ailleurs, c'est un tout petit ampli, donc il écrase rien. Mmh. Mais il y a effectivement un son qui réveille quelque chose qui est endormi, qui est dans une... Voilà, qui réveille des pensées qui sont confortables. Donc, grâce à ce microphone, je peux... faire ces actes-là, par exemple.
C'est intéressant parce qu'il y a la notion de violence là-dedans, mais aussi il y a assez proche aussi dans ce que tu dis de la notion de soin. Et justement, tu mènes des ateliers de soins, c'est ça ?
Oui.
Par la voix, c'est bien ça ?
Par la voix, ouais. C'est pas... Alors, ça devient ça, ou ça se cristallise un peu plus là. C'est quand même au départ le travail des voix, et comment faire sortir, jaillir ces voix, et beaucoup l'improvisation libre, et toujours le fait de faire des ateliers nomades, ou bien il y a un laboratoire de création vocale aussi que je donne à Augmem aussi, à Marseille, qui peut l'accueillir. Et parce qu'il y a un bel espace. Et donc là, on peut faire des tentatives, là, du coup, beaucoup physiques, de corps, de voix-corps. Donc il y a des expériences transversales et aussi de soins. Donc de soins, mais c'est pas formel. C'est aussi, ça s'invente aussi. Et comment on invente nos propres soins aussi.
Oui.
Après, c'est un travail avec le corps et avec le souffle. Voilà. Et pour revenir aussi peut-être à cette question d'une certaine violence qui peut violenter les gens, mais en fait c'est aussi tout le rapport au bruit à nouveau. Et par exemple dans les méditations asiatiques, ça a été complètement édulcoré, mais ces chants-là ne sont pas du tout avec de la réverbe et sont souvent très... assez violents en fait, et ne sont pas beaux. Donc c'est aussi tout le rapport qu'on peut avoir avec la notion du beau, quoi. Ouais. Et donc détourner ça, et l'ouvrir autrement, le bousculer.
Ouais.
Mais donc c'est voilà, et comment donc c'est vraiment initier ou partager. Je partage mon expérience au sein des laboratoires, donc ça passe par des techniques vocales que j'ai apprises Il y a un long apprentissage, tu vois. Et puis ensuite, après qu'il y a ce partage-là des techniques vocales, on essaye à partir de là de faire toujours. Je me mets jamais à l'extérieur. Je suis jamais une professeure qui met à l'extérieur pour je fais l'expérience. Je fais partie de l'expérience. Voilà.
Mais alors tu fais l'expérience, mais en même temps tu as le regard.
Alors le regard, les yeux fermés. Oui. Parce qu'il y a la plupart du temps aussi les laboratoires vocaux, les ateliers nomades, c'est aussi se pratique les yeux fermés la plupart du temps. Et on essaye de vraiment traverser un week-end entier par exemple, en essayant d'ouvrir le moins possible pour que les oreilles déjà s'ouvrent et travaillent, qu'il y ait une confiance en ces oreilles déjà, et donc une oralité aussi, une connexion, que ça se revienne, que ça se relie. Et aussi pour être, on est plus beaucoup moins inhibé dès qu'on n'est plus dans le regard, avec le c'est un regard intérieur, et dès qu'on n'est plus avec le regard, c'est un autre rapport qui s'ouvre en fait, d'autres expériences. Et je vois bien que assez souvent les personnes qui viennent au laboratoire, elles sont ou aux ateliers, elles disent mais j'ai pu me libérer, des voix sortent d'elles. Elle n'y pensait pas, elle ne pensait pas que c'était possible. Mais souvent, elles me disent parce que tout le monde a les yeux fermés. Et donc la représentation aussi, c'est aussi ça. Comment aussi déchirer le rapport à la représentation, la détourner, l'emmener ailleurs et pas être coincée par ça.
Et est-ce que certaines personnes rencontrent des difficultés parce que ce n'est pas évident de lâcher l'œil qui est quand même notre sens essentiel, c'est le plus proche du cerveau, c'est celui qu'on utilise le plus. Donc il y a des personnes qui bloquent là.
Et oui, qui résistent, qui pour lesquelles c'est pas facile. Mais après, en général, personne n'est parti là déjà. Du coup, il y a une ténacité et elles sentent bien que en même temps, autre chose s'ouvre. Donc il y a une résistance, quelquefois ça met un peu de temps, et puis à la fin des deux jours ou des trois jours, ça s'ouvre. Mais la plupart quand même assez vite sentent que c'est finalement que ça ouvre un autre rapport. Il peut y avoir un peu d'inquiétude au départ et de panique, mais que tout de suite on est beaucoup plus relié au son en fait.
D'accord. Donc on fait confiance au son.
Oui. Et à nos oreilles.
Voilà, oui. Ouais. On découvre une autre dimension, enfin pas une autre dimension, mais d'autres appuis.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ouais.
D'accord. Ouais. On peut peut-être écouter quelque chose là, non?
Oui.
Insomnie, numéro 6 de Disconnected Night, avec donc de Natacha, avec Machine Boomerang.
Night, 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 night. Night, 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 night.
Night, 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 night.
night, 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 disconnected night, 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 disconnected night, 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 disconnected night, 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 disconnected night, night, disconnected, 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 disconnected,
Alors, Natacha, tu voyages beaucoup, notamment pour présenter ton travail à l'étranger, mais aussi en France. Comment se fait-il qu'on te voit si peu en région parisienne ?
Pourtant, quand je viens à Montreuil, je viens à Aubervilliers, je viens à Saint-Denis.
Mais peu, peu, peu. Mais,
oui, 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 peu. Je sais pas.
Parce que tu fais beaucoup de choses sur Marseille quand même. Hein. Tu es oui, vraiment. Ça, ouais. Ça te tient à cœur de rester sur Marseille comme ça.
Peut-être aussi parce que j'ai beaucoup vécu à Paris. Je suis née à Paris. Du coup, Paris, ça a été un endroit d'apprentissage. C'est pour moi, à chaque fois, prendre le métro, ça me fait beaucoup de choses, même si, évidemment, je sens des tensions là, et puis tout devient de plus en plus... C'est très, très tendu. Et puis, je me souviens petite hein, des métros en siège en bois, où les temps étaient beaucoup plus longs. Il n'y avait pas toutes ces annonces terribles, ces haut-parleurs et tout ça, évidemment. Mais c'était des boyaux, c'était vraiment un corps, c'était un organisme vivant, en fait,
ah,
le métro.
Oui, oui.
Et dans lequel, en fait, c'est là où j'ai pratiqué la voix le plus.
Tu as joué dans le métro ?
J'ai joué dans le métro, j'ai chanté dans le métro.
Quand tu étudiais la voix ?
Depuis l'âge de 17 ans. Et puis ensuite, j'ai étudié la musique indienne.
D'accord.
Avec une professeure qui s'appelle toujours, parce qu'elle est bien vivante et elle continue de chanter Kakoli Sengupta. Et donc elle, c'était extraordinaire parce que... Et aussi, je prenais des cours aussi de chant classique avec Monsieur Touboul. Et donc, il y avait les deux, des approches tellement différentes, parce que chez Kakoli Sengupta, donc c'était l'apprentissage de la musique, du chant d'Inde du Nord, hindoustani. Et là, c'était en tailleur. Et puis, ce n'était qu'un travail, pendant plus de 2 ans et demi, 3 ans, de ne faire que l'écouter et imiter
sa voix. Pas de se blesser,
les ragas. Ah, quelle bonne question. Non, mais c'était vraiment justement très marrant parce qu'il y a une foi. Et ça aussi, c'était un moment important parce que ça a ouvert aussi quelque chose de fondamental, en fait. C'est dans ma pratique, hein, dans ce que je travaille. Et c'est qu'à un moment donné, je suis arrivée... À un moment donné, donc au bout de 2 ans et demi, tu ne fais que répéter. Et elle ne te dit rien, absolument rien. Et à un moment donné, elle te dit, tu commences à être dans le son. Tu es dans le son. Et donc, il y a tout un moment aussi où tu limites et tu finis par avoir presque sa voix. Alors, sa voix, ça veut dire aussi ses voix, parce que dans la musique indienne, c'est pas du tout comme le chant classique, donc c'était aussi une approche très différente. C'est-à-dire que le spectre vocal, il n'y a pas une voix mezzo, une voix alto, une voix soprano, tout ça. C'est les voix, tu as toutes les voix aussi, tu as tous les spectres, les graves, les médiums, les aigus, les ultra-aigus. Donc ça aussi, ça ouvrait autre chose. Et puis un jour, comme je prenais des cours aussi de chant classique parallèlement, elle m'a dit, un jour, je suis arrivée, je dis... Oh, j'ai plus de voix, j'ai les cordes vocales, j'ai un gros rhume, tout ça, j'ai trop chanté. Elle se moque de moi. Et puis elle me dit, ah, Natacha, est-ce que tu connais le chant Pansori ? Et c'est, voilà.
Justement, tu as un projet là-dessus ?
Oui, ouais. Oui. J'ai travaillé à partir aussi du chant Pansori avec Patrick Portela, qui est un compositeur. de musique plus web, électroacoustique, acousmatique, qui a un très beau travail aussi avec, avec souvent la voix, les voix. Et les voix dans les rites, avec les rites funéraires de différents pays. Bon, ça aussi, c'est un travail long, complexe qu'il a déployé. Mais, et du coup, oui, on s'est rencontrés à cet endroit-là aussi, justement, par à travers ce que je te raconte là aussi.
D'accord.
Donc elle se moque de moi, elle me dit « Alors, le champ Panserie, tu connais ?» Je dis « Non, pas du tout. » Et elle me dit, donc là je devais avoir 22 ans, hein, et elle me dit, bien ce chant-là, tu peux saigner des cordes vocales. Et les cordes vocales, du coup, deviennent des espèces de pudding stones, c'est-à-dire ces pierres, ces conglomérats,
bah voilà.
Ça deviennent, voilà.
Tout s'explique.
Ouais.
Ouais, ouais.
Et c'est des conglomérats comme ça, naturels, qui fait que le chant Panserie, en fait, c'est un chant, c'est des récits épiques, mais il y a un apprentissage depuis très petit ou très petite, garçon ou fille, où tu vas aller te confronter aux éléments naturels et au son d'une cascade. Le son d'une cascade, c'est le son d'un bruit blanc, d'un décollage d'avion, c'est 125, 130 décibels. Oh, c'est très, très puissant. Et donc, au fur et à mesure, elle s'entraîne depuis assez jeune à dépasser le son d'une cascade très puissante. Et donc, c'est à ce moment-là que les cordes peuvent saigner et elles se réparent tout à fait. Et ces voix, les chants du Panserie, c'est un chant magnifique, ce sont des voix qui crient, qui hurle des voix. Une femme elle imite dans les récits épiques tous les personnages. Mm-hmm. Donc c'est du chanter-parler et parfois ça éclate en cris. Et c'est avec un percussionniste aussi, hein, percussion et voix. Et ce sont, pareil, elle a la voix du grand-père, la voix de la grand-mère, donc des voix masculines, des voix féminines, des voix d'enfants, des voix de fées, des voix...
Okay. Voilà. Donc finalement, c'est un peu de là que tout est parti.
Oui, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, ouais.
Bon, Natacha, tu peux nous dire quels sont tes projets là, dans l'avenir immédiat et plus lointain?
Ouais, ouais. Des projectiles. Parce que c'est pareil, j'aime pas ce mot.
Non, mais là où on peut te voir et t'écouter,
oui,
tu vois.
Oui, 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 puis pas que moi. Puis d'ailleurs, c'est rare qu'on me voit parce que c'est souvent aussi dans l'obscurité. Cortactile, nos concerts, c'est dans l'obscurité la plupart du temps.
Ouais, ouais.
Il y a toujours le travail en pleine figure avec Cécile Duval, Coyote avec Michel Doneda, ça c'est des dates en septembre, et puis voilà.
Il y a des dates fixées déjà ou...
Oui, mais je ne me souviens plus, 8-9 septembre avec Michel Doneda, Coyote, oui, ça c'est dans le Luberon, Rayan, Casaloba. Et puis cet été aussi, bien sûr, il y a la Fanfare de la Touffe.
Oui.
Voilà, et donc ça c'est le bruit de la musique. Dans la Creuse, et puis des choses qui vont s'improviser aussi. Et oui, bien sûr, il y a aussi en ce moment une création avec Audre Marie, qui est une violoncelliste et qui m'a invitée à travailler avec elle, et Christophe Cardoen aussi, qui est un plasticien des Lumières. Et ça aussi, c'est tout un travail. On est à la périphérie des Lumières, Audre et moi, en mouvement dans l'espace, elle avec son violoncelle aussi, circule dans l'espace. Comme un félin. Et donc, il y a ce travail qui s'appelle Limbe et un danseur là que je ne connais pas. Au mois de juin, on va se retrouver en résidence à Nancy, à Vendeuvre-les-Nancy. D'accord. Voilà.
Donc, on va se quitter. Au revoir, Natacha.
Au revoir, merci.
Donc, on va se quitter sur Mute de l'album de Natacha Muslera, Plage, Grève, Mute.
Et ben merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup, Patricia. Et puis, à bientôt. Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Ah,